Saint Charles de Foucault, itinéraire d'une conversion. Voici une conférence du père Gonaël Kefelec, enregistrée au sanctuaire de Paray-le-Monial au mois de mai 2022. Saint Charles de Foucault, itinéraire d'une conversion, le père Gonaël Kefelec.
Donc Charles de Foucault, en fait, j'ai lu au séminaire, ma première année, Charles de Foucault, mais je n'ai pas été accroché tout de suite. Voilà, c'est depuis quelques semaines auxquelles je me suis un peu plus plongé dedans et j'ai vraiment redécouvert beaucoup de choses. Comment ce saint Charles de Foucault, c'est vraiment, vous savez, le saint qu'il nous faut. Hein. Vous savez, Jean-Paul II a canonisé Sœur Faustine en l'an 2000. Bon, c'est une sainte très importante, justement, pour ce siècle. Et là, le pape François, donc, canonise. Quand il canonise, c'est pour l'Église universelle. Bienheureux, c'est un culte local. Et canoniser saint, c'est vraiment pour l'Église universelle. Et c'est le saint qu'il nous faut, parce qu'il correspond bien à notre époque. Et on va voir ensemble un peu son itinéraire de sa vie. Alors voilà, je suis pas encore un grand expert, comme je vous dis. Alors il y a des livres. C'est pour ça que j'étais chargé un petit peu. Je me suis un peu plongé, mais j'ai pas tout lu, rassurez-vous. Donc, le premier livre, donc, Charles de Foucault, on va commencer par dire un Je vous salue Marie, parce que il est né un 15 septembre. 15 septembre 1858. 1858, c'est l'année où Marie est apparue à Lourdes, Bernadette, hein, le 11 février, hein, jusqu'au 16 juillet, hein, Notre-Dame de Mont-Carmel, donc 1958, c'est une date importante, mariale. Et puis, il est né, donc, à Strasbourg, un 15 septembre, c'est la fête de Notre-Dame des Douleurs. Notre-Dame des Douleurs, alors on peut dire, c'est pas, mais, bon, mais c'est Notre-Dame, Marie qui est au pied de la croix, qui aime Jésus, qui est fidèle jusqu'au bout, et qui va souffrir avec Jésus, que l'amour ne soit pas aimé, hein, mais qui est notre mère aussi, voilà. Donc, et la place de la Vierge Marie va avoir une très grande importance aussi dans la vie de Charles de Foucault, comme ici à Paray-le-Monial, Marie, et on ira à Notre-Dame de Remet demain, pour ceux qui veulent, voilà. Donc Marie nous conduit au cœur de son fils. Alors je vous propose tout simplement de confier cette intervention, toute simple, et pour que vous notiez ce dont vous avez besoin, hein, comme tout, le but c'est pas tout retenir, c'est de retenir ce dont vous avez besoin. Et puis après, vous réécouterez si vous voulez. Et voilà. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Notre-Dame du perpétuel secours, priez pour nous. Bienheureux Charles de Foucault, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Donc, je vous dis qu'il était, je disais qu'il est mort à, il est né à 15 septembre 1858 à Strasbourg, et puis il est mort en 1916. Dans un fort, hein, assassiné, hein, par des Touaregs un peu sénoucites, hein, de Libye. Bon. Et donc à 58 ans. Alors on va voir ensemble un peu son parcours, mais je vais plutôt plus m'attarder sur la première partie de sa vie, hein, même si dans sa vie il y a 8 étapes. Mais pour continuer cette introduction, regardez ce visage à la fin de sa vie, Charles de Foucault, et avec un peu le visage du Saint-Suaire, parce qu'en fait, en regardant ce visage, eh bien, ces psaumes me sont venus à l'esprit, hein, le psaume 28. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Donc c'est psaume 26, pardon, verset 8. Psaume 26, traduction liturgique, verset 8. Mon cœur m'a redit, cherchez ma face, c'est ta face que je cherche, ne me cache pas ton visage, ne me cache pas ta face. Et puis, qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble visage. La quête de Charles de Foucault, c'était le visage de Jésus. Ça a été le, et donc là, c'est le Suaire qui ne connaissait pas à l'époque, mais voilà, donc je l'ai mis, et il a cherché le visage de Jésus, au moment de sa conversion, hein, à l'âge de 28 ans, comme nous allons le voir. Hein. Et puis ce psaume 60, ce psaume 66, verset 2, « Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, hein, et son salut sera connu sur toute la terre. » Voilà. Que son visage s'illumine et que son salut soit connu sur toute la face de la terre. C'est le désir de Charles d'être missionnaire. Voilà. Toute la terre et dans des lieux où personne ne connaît Jésus. Voilà. Personne. Et donc, il va y avoir ce désir de montrer le visage, la bonté de Jésus, la bonté de Dieu, hein, en étant là où personne ne le connaît. Alors, nous allons voir les 8 étapes de sa vie. Rapidement, les 4 dernières rapidement, mais les 4 premières plus longuement, et ensemble pour... Et donc, voyez, à travers ces visages, comment ces visages de Charles de Foucault, entre là, quand il est donc officier à Saint-Cyr, à vingtaine d'années, vous voyez, et puis ensuite, jusqu'à la fin de sa vie. Vous trouvez pas comme... On dirait pas que c'est le même homme. Hein. Si vous montrez ces 4 visages de façon différente, on dirait, mais c'est pas le même. C'est pas le même. Eh bien, si, c'est le même. En fait, c'est le même. Et encore, il faudrait rajouter... on va rajouter. Alors justement, on va rajouter. On va commencer, première étape de sa vie, son enfance. Son enfance... Donc, il a commencé à Strasbourg, comme je vous l'ai dit, en Alsace, hein, proche de l'Allemagne. Vous allez voir que ça va être important parce que. Et donc, sa maman s'appelle Elisabeth Baudet de Morlaix, c'est ça que c'est important, qui est une femme priante, pieuse, hein, et qui va l'éduquer vraiment dans la foi. Il va apprendre aussi à faire des fleurs, à mettre des fleurs au pied du calvaire. Et ça va le marquer. Très important. Vous allez voir, parce que c'est très important. Ensuite, donc elle est mariée avec Édouard de Foucault de Pontbriand. Vous voyez, donc c'est vraiment la noblesse, hein, c'est la grande noblesse. Et donc, ils vont pas avoir problème financier. Et d'ailleurs, ça va être un peu un souci. Ils vont vivre dans l'aisance matérielle. Donc, c'est, à la fois, c'est une grâce, mais ça va être aussi ça va être son combat auquel on va revenir là-dessus. Hein. Et donc, mais son père est fragile. Est très fragile, donc pourtant il est beau, fort, expansif, hein, et il va tomber dans la dépression, dans la déprime. Il va avoir une sœur, donc lui c'est l'aîné, hein, une sœur qui s'appelle Marie. Et comme je vous dis, je suis pas un expert, mais en tout cas, après, elle, Marie, va se marier, hein, il y aura un lien quand même avec elle, assez fort, des lettres, hein, et notamment une lettre qui va écrite à Marie quand elle va perdre un enfant très tôt. Hein. Et justement, donc la mort va marquer la famille. La mère va tomber malade, va mourir d'une fausse couche le 13 mars 1864. Et son mari, dans la déprime, dans un asile, il va mourir 5 mois plus tard. Donc, à 6 ans, Charles et sa sœur Marie, 3 ans, se retrouvent orphelins. Voilà. Bon. Donc je pense à, peut-être parmi vous, il en a perdu un parent. Ouais. Et puis surtout, il va pas assister à la mort de son père. Hein, son père il va mourir seul, son père, hein, de neurasthénie. Hein, donc en fait, dans un asile d'aliénés. Voyez, sur la tombe de sa maman, il y a marqué que ta volonté se fasse en moi et non la mienne. Ça vous rappelle quelque chose que t'as... Et donc, il va prier sur cette tombe. Vous voyez, on a vu hier la prière d'abandon de Charles. Eh ben, cette prière d'abandon, et c'était sa mère qui voulait cela. Enfin, qu'on écrive sur sa tombe que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est la parole du Christ à l'agonie. Vous voyez, à l'agonie, et que Jésus nous a demandé de vivre. C'est ce que nous avons vécu hier soir. Donc, ça fait un peu le lien avec ce que nous avons vécu hier soir. Et leur sainte est parémonial. Donc, vous voyez, il a vécu déjà. Notre-Dame des douleurs, c'est déjà marqué par ça. Et puis après, donc, ça va être sa grand-mère paternelle qui vont l'accueillir. Et elle va mourir quelques mois plus tard. Donc, en un an, 3 deuils. Donc ça va, vous voyez, je fais un peu le lien avec Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux aussi, elle a perdu sa maman hein, quand elle avait 4 ans, je ne sais plus, 4, 6 ans, je ne sais plus. Et bon, ça l'a marqué toute sa vie, hein, une grande fragilité. Et donc c'est très important, ce qui va faire que quand même Charles va connaître une certaine fragilité intérieure qui va cacher, hein, et qui pourra comprendre après ses excès, et ses, voilà. Cette fragilité, c'est ça qui est magnifique, vous voyez, les saints ne sont pas sans défauts et sans fragilité. Très important pour nous, vous voyez, rien que ça, pour ça, pour nous. Les saints ont des fragilités, des défauts, comme nous tous, et ça c'est rassurant. Hein, et voilà, et donc en plus, donc, je vous dis ça, parce que donc, donc sa grand-mère paternelle hein, va mourir avec l'image de Marie du perpétuel secours. Et ça va le marquer. C'est pour cela qu'après, ça convient, il va garder cette dévotion à Marie, Notre-Dame du perpétuel secours. Ensuite, il va être accueilli en 1864, hein, donc dans cette même année, donc 1864, c'est une année forte. Hein, eh bien, il va être accueilli par son grand-père maternel, hein, le père de sa mère, le colonel Baudet de Morlaix. Hein, Baudet de Morlaix, c'est leur nom de famille, qui a 68 ans. Donc le grand-père, vous voyez, donc il va à grands-parents. Et là aussi l'importance des grands-parents, vous voyez, vous êtes certains grands-parents. Bon, l'importance de l'éducation. Et ce grand-père va être un très bon père. Enfin, un très bon père, mais avec quelques défauts quand même aussi. C'est que d'abord, il va lui mettre beaucoup d'affection. Comme il a souffert, il va l'éviter toute... voilà, il va le combler de biens matériels, de facilités biens matériels. Mais par contre, il va lui donner le goût du travail, des études, et le goût de l'exploration, et le goût aussi de l'armée, parce qu'il était le colonel. Et donc, c'était aussi un polytechnicien. Vous voyez, donc c'était quelqu'un de brillant, sommet polytechnicien. Et donc ça va marquer aussi Charles de Foucault, ça va marquer l'importance de l'intelligence. Voilà, l'intelligence, elle a une grande foi, et il va perdre la foi, et parce qu'il pense que la foi et l'intelligence, c'est pas compatible. Et ça aussi, ça c'est très actuel aussi. Alors voilà, moi je crois que la science, à la foi, on va voir comment il va être amené à retrouver cette élite, comment science et foi se portent. Donc, voilà, très important. Donc, à 10 ans, donc en 1868, hein, 1858, facile à retenir pour Bernadette Lourdes, hein, 10, Charles a 10 ans. Il va passer 2 mois de vacances dans un château de famille, là, avec sa cousine Marie Moisetier, qui a 18 ans. Cette cousine Marie de Moisetier, donc il y a un décalage de 8 ans, et qui va s'occuper d'elle un peu, de lui, comme elle va être très liée d'affection à Charles. Et elle va aller à la messe avec lui, elle va lui parler du Sacré-Cœur, elle va aller à la messe le dimanche, en semaine, avec Charles, hein, donc à l'âge de 10 ans. C'est important, donc il a toujours la foi, enfin, il a la foi, il prie, parce que bon, c'est la famille et ça. Et donc Charles va faire sa première communion à l'âge de 12 ans, et il va choisir comme image une image du Sacré-Cœur, parce que cette Marie Moisetier, qui va venir Marie de Bondy, qui va être en fait sa mère spirituelle, comme il va le dire. Donc, mais déjà à l'âge de 18 ans. Donc ça aussi, c'est pourtant, il y a des jeunes aussi qui sont là, mais c'est important, parce que déjà des jeunes qui peuvent vivre une vie de foi, vivent, et qui va évangéliser, qui va soutenir Charles. Voilà. Ensuite, d'autres épreuves, et donc la guerre de 1870 arrive, donc à 12 ans, il y a la guerre franco-prussienne, franco-allemande. Et donc la famille va déménager de Strasbourg à Nancy. Et donc, voilà. Et puis, il va être confirmé. Et là, après, c'est là qu'il va parler, qu'il va perdre la foi. Hein, qu'il va. Alors, je vous lis. Alors, donc, je vous propose quelques livres, une petite pause comme ça. C'est, oui, j'avais dit à Delphine, là, la libraire, que j'allais faire un petit peu, présenter un peu les livres, parce que j'ai dû un peu me pour préparer ce topo. Alors, j'ai pas tout lu, rassurez-vous. Alors, donc, le premier livre de base, c'est le premier livre qui a été écrit, c'est René Bazin, qui a été écrit quelques années après sa mort. Donc, c'était le livre de référence. Voilà, ça, c'est le premier livre, mais je l'ai pas lu, mais c'était le livre de base. C'est ça qui a fait connaître très rapidement Charles de Foucault. Ensuite, après, il y a, donc voilà, faut deux livres beaucoup plus faciles à lire, qui sont ici et là, une bonne synthèse. Hein, donc le premier de Jean-Claude Boulanger, L'Évangile dans le sable, qui reprend bien l'itinéraire avec des aspects de sa vie. Hein. En fait, un livre qui est très semblable, mais très complémentaire, hein, et cela j'ai un petit peu plus lu, Saint-Charles de Foucault, de Jacques Gauthier. Hein, voilà, donc très bien fait. Voilà, ça c'est vraiment très très bien fait. Donc je prendrai quelques citations là-dessus. Alors bien sûr aussi, il y a Prier 15 jours avec Charles, très bien fait, pour faire une retraite, continuer à faire une retraite avec ça. Alors bien sûr, il y a toutes ses lettres et ses carnets, mais il a écrit beaucoup, énormément. Donc ça, peut-être, il en parlera vers Benoît. Il y en a, et, mais alors donc là, il y a avoir quelques lettres et carnets. Et puis, je vous parlerai voilà, de ce livre-là que j'ai dévoré hier, passionnant, entre l'abbé Uvelin et son père spirituel. On va en venir là-dessus. Alors, je vous parle maintenant de cette perte de la foi. Combien d'enfants, vous voyez, rassurez-vous, et ça, c'est d'enfants et petits-enfants, à l'âge de 12-13 ans, ils ont fait leur profession de confirmation. Voilà, c'est terminé, j'ai tout fait. Hein, ou même des fois, on dit, j'ai tout fait. Alors, comme dit l'évêque du Mans, que j'apprécie, il dit, non, t'as pas tout fait, t'as tout reçu. Maintenant, il faut tout donner. Il faut, et donc, il va perdre la foi. Donc, page 27, dans ce livre de Jacques Gauthier. Il écrit donc à un ami, hein, « J'ai été élevé chrétiennement, mais dès l'âge de 15 ou 16 ans, toute foi avait disparu en moi. Les lectures dont j'étais avide, on lui avait donné des livres de Bossuet à l'époque, bon, dont j'étais avide à lire, avaient fait cette œuvre. Je ne me rangeais à aucune doctrine philosophique, n'en trouvant aucune assez solidement fondée. Voilà. Aucune doctrine assez solidement fondée d'intelligence, vous voyez. Donc, je restais dans le doute complet. Éloigné surtout de la foi catholique, dont plusieurs dogmes, à mon sens, choquaient profondément la raison. » Voilà. Et donc, voilà. En fait, c'est un enfant très brillant, à 16 ans, très très brillant, hein, puisqu'on va voir, puisqu'il avait un grand-père très brillant, et donc il a été éduqué là-dessus. Hein. Au même âge, ma vie devient dissipée. Alors voilà, donc je vais passer donc un peu cette deuxième étape de la vie où il va donc à 18 ans, disons, il va intégrer Saint-Cyr. Il va intégrer Saint-Cyr. Il va être comme, c'est très important parce qu'il va finir une 40e de promo, non, 82e sur 400. Vous voyez, dans le premier quart. Donc 82e sur 400, donc c'est quand même pas mal. Et voilà. Et donc il va avoir cet amour militaire par son grand-père. C'est son grand-père qui voulait, en fait. Qui voulait qu'il soit officier, hein, donc bon bah voilà, avec il a été officier plutôt par affection par son grand-père. C'est pour ça qu'après qu'on va voir qu'il aura des difficultés avec l'armée, mais quand même c'est voilà. Et donc voilà, donc je continue ça quand il raconte la perte de sa foi, hein, et il vient une veille d'aisance puisque son grand-père va mourir, lui, son père, enfin, il va hériter de son père, de son grand-père maternel, il va avoir des biens considérables et aucune notion de l'argent et une vie facile, de plaisir, de facilité, et dès qu'il va le dire, voilà. Au même âge, ma vie devint dissipée, elle le resta longtemps, sans empêcher un penchant très vif pour l'étude. Au régiment, je fus très dissipé. J'étais loin des miens. Je vis à peine ma famille de 1878 à 1886, hein, pendant 8 ans. Hein. Et le peu qu'ils surent de ma vie, surtout dans la première période de ce temps, ne put le faire que de la peine. Que de la peine, donc, là, c'est, alors ses tantes, et notamment sa cousine et sa sœur aussi. Hein. Donc voilà, il intègre donc Saint-Cyr en 76, hein, donc il a bon, il est très jeune. Bon, et puis ça va être difficile parce que justement il va hériter, il va vivre beaucoup d'argent, hein, il va à la fois être brillant dans les études mais pas très brillant pour de motivation et d'exemple. Il va sortir beaucoup de filles, de femmes, voilà, une vie un peu voilà, on peut dire un peu sexuelle désordonnée, oui, et pas du tout conforme pour l'époque, hein, déjà bon, aujourd'hui ouais, mais à l'époque c'était bon. Je vais aller rapidement. Il va faire quelques missions, mais il va venir avec une concubine. Et ça va pas du tout être apprécié. Hein. Il va être renvoyé. Et puis après, voilà. Et après, il voit que ses confrères sont, il y a une guerre. Il va vouloir aller au combat. Et là, il va montrer un peu quelques talents. Hein. Mais après, en fait, on va le mettre de côté parce que il est trop indiscipliné. Voilà, l'indiscipline, l'obéissance. Ah, t'es indiscipliné, obéissance. Pourtant, elle était, en fait, jusqu'à son grand-père, la mort de son grand-père. Son grand-père est mort, donc là, il s'est complètement lâché. Il avait plus de, voilà, il était devenu maître de lui-même, de ses pulsions, de ses désirs. Et puis, il se cherchait, comme c'est un peu normal. Vous voyez, c'était pas, il avait, voilà, l'armée, bon, c'était pas forcément ça qu'il avait choisi au début, hein. Donc en 80, mise en congé par retrait d'emploi pour indiscipline doublée d'inconduite notoire. Il vit retiré à Évian, hein, il vit avec cette compagne, mais ça c'est très important, voilà. Avec l'inquiétude vague d'une conscience mauvaise qui, tout endormie qu'elle est, n'est pas tout à fait morte. Voilà. En fait, il va raconter qu'il est complètement, il vit dans le plaisir, mais il n'est pas heureux. Combien de personnes vivent dans le plaisir? On a beaucoup, tout, hein, ouais, l'argent, tout ça, là, et on n'est pas heureux. Il y a une tristesse. Hein, ça c'est parce que c'était une vie centrée sur le même de plaisir. Et puis bon, ben il se recherchait, il avait. Donc vous voyez, cet itinéraire, c'est pas du tout longiligne, c'est plusieurs étapes. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, comme il avait le goût un peu des voyages et de l'exploration par son grand-père, il va avoir ce projet, et pendant un an, il va préparer une mission au Maroc. C'est un pays pas du tout connu, où il n'y a aucune carte. Et il va partir dans cette mission un peu folle, sa famille va dire, mais complètement fou. Donc il va quitter l'armée, donc ça, la famille, mais tu es complètement... Donc là, on voit son tempérament un peu impulsif, on va voir, et puis un peu déconcertant, quand même, c'est être bien placé officier pour tout arrêter. Et il va choisir un rabbin juif, voilà, enfin, rabbin juif, pardon, excusez-moi, bien sûr. Là, vous avez son nom. Hein, c'est dans les années 84, hein, 82-84. C'est pas tout à fait l'année. Je me suis bon. Et il va choisir un guide. Vous voyez son visage, le visage de ce guide. Ben, le regardez bien, ce visage. Est-ce qu'il ressemble pas au visage? Comment il va devenir, hein, ce maître? Et il va au Maroc. Les chrétiens ne sont pas acceptés, même persécutés. Et donc, ce rabbin dit, tu veux découvrir le Maroc? Eh bien, il faut que tu fasses passer pour juif. Donc, il va se faire passer pour juif. Il va prendre les coutumes juives. Il va faire le Shabbat. Et il va redécouvrir la religion, ben, à travers cette fois juive, en se déguisant, voilà. Et donc, il va parcourir la région. Hein, bon, là, c'est pas tout à fait adapté. J'ai pas, bon, la photo de, elle était pas comme ça. Mais en tout cas, il va découvrir, on n'a pas de photo de quand il était en exploration au Maroc. Hein, mais donc, il va découvrir le monde du Maroc et les Touaregs. Il va connaître les Touaregs. Et lors de cette exploration au Maroc aussi, il va découvrir l'islam, voir comment les musulmans, eh bien, ont un respect de Dieu, et en fait, vous voyez là aussi combien, eh bien, sa foi d'enfance qui a été étouffée pendant plusieurs années, eh bien, va se réveiller. Alors là, je lis page 98 dans ce livre-là. « Voilà, durant son séjour en Afrique, donc de 80 à 84, il fallait préparer, il a préparé tout ça, il a fait plusieurs séjours en Afrique, mais c'est surtout son exploration au Maroc, hein. Voilà, il entendait ce mot sacré, voilà, Allah Akbar, voilà, ça veut dire Dieu est grand, bon, et donc il prenait conscience de Dieu. Et donc il écrit en 1901 à un bon ami, « L'islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de cette foi, de ces âmes vivant dans une continuelle présence de Dieu, m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines. Je me suis mis à étudier l'islam, il a appris l'arabe, et aussi avec le juif, il a appris l'hébreu. Donc l'hébreu, par le juif, son guide, hein, l'hébreu, l'arabe, et puis après dit, puis après, la Bible. Voyez? Donc, vous voyez, ça, je crois que pour ça, pour nous, c'est aussi prophétique. Vous voyez, il y a en ce temps où l'islam, pour beaucoup, font peur, et alors, il y a certaines raisons, hein, l'intégrisme fait peur, tout à fait, hein, mais il faut pas résumer tous les musulmans à l'intégrisme, comme aussi, je pense au moine de Christian de Chergé, hein, qui a été aussi touché, moine de l'Atlas, aussi, qui a été touché par l'islam et qui l'a aidé dans sa foi, hein, et même un musulman. Donc là, je crois qu'il peut nous aider, j'en suis sûr, Charles de Foucault, pour nous aider à dialoguer avec l'islam. Et de voir, donc cette radicalité des musulmans, eh bien, ça va rappeler en lui cette radicalité. Et des fois, justement, mais pour autant, il va pas devenir musulman, il va revenir. Alors regardez maintenant son visage. Comment, ça, c'est son visage de photo quand il revient du Maroc. Vous voyez, donc il y a les deux photos quand il était officier, bien rond, hein, bien, bon, il y a toujours la moustache. Et puis là, son visage devient plus fin, plus maigre, et en fait, il va connaître la vivre très simplement la pauvreté dans son expérience au Maroc, voyez. Et donc c'est ça qui va lui donner le goût de la cèse, hein, qui va cet appel à la cèse, la pauvreté, parce qu'il va en faire l'expérience dans ce voyage au Maroc qui va être fondamental, voyez, pour sa conversion, qui va préparer son retour au Christ. Alors maintenant, eh bien, il va revenir. Il va revenir, il va écrire ce carnet d'exploration du Maroc, hein, et il va voir un prix. C'est reconnu, toute la France, que son travail, ses croquis, ses dessins et tout le plan qu'il a fait, voilà. Donc on reconnaît une grande compétence et ce courage quand même de partir dans un monde hostile. Hein, c'est vraiment, vous voyez, l'audace. L'audace de Charles de Foucault. Hein. Maintenant, nous allons rentrer. Il va aller à Paris. Donc, ça, c'est la première étape de la vie, hein, son enfance. Difficile, enfin belle, mais les fondements de la foi. Deuxième étape de sa vie, carrière militaire. Troisième étape de sa vie, sa période. Quand il devient explorateur du Maroc, hein. Il va se déguiser, voilà, en juif, comme je l'ai dit. Troisième étape. Hein. Quatrième étape de sa vie, le basculement, c'est octobre 1886. Il va décider, il va se rapprocher de sa famille et de sa tante et de sa cousine. Et Marie de Bondy, qui s'est mariée, donc avec Marie de Mosty, sa cousine, avec un de Bondy, aussi un banquier très riche, bon, bref. Et en fait, Marie de Bondy, depuis 10 ans, avait choisi comme père spirituel l'abbé Huvelin. Et cet abbé Huvelin, était très apprécié, il était vicaire à Saint-Augustin. Donc, c'était quelqu'un de très brillant. Il avait fait l'école normale, hein, l'Eurodulme. Enfin, je sais pas si c'était l'Eurodulme à l'époque. Et en fait, il avait le don de prédication et de pasteur, de guider les âmes. Il n'était pas curé, Il aurait pu être professeur à la Cato, qui venait de se créer, mais non, il a dit, je veux pas être professeur, je veux guider, c'était vraiment un pasteur, mais sans être curé, parce qu'il avait des gros problèmes de santé. Gros problèmes de santé, de migraines, de fatigue, de paralysie, enfin, un peu mystérieux, et d'ailleurs, il va en mourir, hein. Et donc, Charles de Foucauld, Marie va conseiller à Charles d'aller voir cet abbé Yvelin, qui était son père spirituel. Et sûrement, donc ça s'est raconté dans ce livre vraiment remarquable. Voilà, je vous recommande de l'offrir à vos prêtres, votre pasteur. Ça s'appelle Charles de Foucauld, abbé Yvelin, 20 ans de correspondance entre Charles de Foucauld et son directeur spirituel. C'est gros, c'est écrit en gros caractères, mais ça se lit très très facilement, très très facilement. C'est passionnant, passionnant. Bon, j'en suis, et donc je voudrais, et donc bon, donc merci d'avoir préparé cette. Si j'avais pas préparé ce topo, j'aurais pas lu cela. Et donc vraiment, je vous le conseille pour connaître, parce qu'il va tout, donc tout, ça va être son père spirituel. Il va dire Charles Foucauld, c'est lui qui va l'enfanter. Il va dire deux personnes m'ont enfanté, Marie de Bondy. Ma mère spirituelle, il va le dire, ma mère spirituelle m'ont dit, et l'abbé Yvelin. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, sûrement, Marie de Bondy, avant cette rencontre fin octobre 1800, bon, peu importe les dates, hein, vous avez noté ça, donc il avait 28 ans, eh bien, l'abbé Yvelin connaissait Charles, parce que pouvait dire sa cousine Marie. Sûrement, sûrement. C'est pour cela que, en fait, Eh bien, racontons, voyons cette rencontre. Cette première rencontre entre Charles et l'abbé Yvelin. Alors, je vais... oui, c'est ça. C'est dans ce livre-là. Il y a une petite perdue. Ça fait partie de. Oui, alors je vais quand même. Attendez. Comme un peu perdu là. Ça va. Voilà. On va commencer. Je vais continuer par ça. Parce que c'est. Non, si c'est celle-là, je vais quand même. De la conversion, excusez-moi. c'est la conversion. Voilà, ça va être ici. Parfait. Donc, page. Voilà. Page 27 dans. Non, c'est pas page 27. Hop. Ou. Alors. C'est le moment le plus important, mais ça fait partie du. Page 23. Alors, c'est peut-être. Non. Non, c'est. Alors, je vais prendre ici le lien avec Marie de Bondy et l'abbé Yvelin. L'abbé Yvelin qui parle à sa cousine. Hein. Votre cousin est un peu pressant pour ses essais de vie monastique. Hein. Donc je l'envoie à Solesmes. Donc il y a cette conversion. Je vais retrouver la page. Cette conversion. Enfin si, bon, je vous le dis comme pardon. Cette conversion. Donc Charles va venir voir l'abbé Yvelin parce qu'il a fait l'école normale. Hein. Donc il est lettré. Il est intelligent. Et donc, aussi, il va renouer avec sa foi grâce à Marie de Bondy, qui est belle, intelligente et qui a la foi. Donc, il dit ces trois lieux, comme il était attiré par les belles femmes, quand même. Intelligence, intelligence de la foi, intelligence, et puis la foi, il dit, bon, ben voilà, c'est important. Et donc, elle lui parle de cet abbé Yvelin qui est intelligent, l'école normale, et il vient dire il vient voir l'abbé Yvelin en disant, dans son confessionnal, un matin, et il dit, je voudrais parler avec vous de religion, comme je l'ai fait avec un rabbin juif, comme je l'ai fait aussi en islam. Je voudrais commencer par lire vous. J'ai plein de questions au niveau intelligence. Qu'est-ce que va faire Charles, l'abbé Yvelin? Il va dire, d'abord, confessez-vous. Venez et confessez votre vie. Mettez-vous à genoux et confessez-vous. Et mettez-vous à genoux et confessez-vous. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Et il va se confesser. Et voilà ce qu'il va dire. Il va dire, aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi. Et il va dire que sa foi commence, eh bien, là, à cette confession et la communion. L'abbé Evelyn va dire, voilà, maintenant vous êtes en état de grâce, communiez. Voilà, ça c'est un moment phare, et c'est là où Charles va dire, c'est là où, eh bien, l'abbé Evelyn m'a enfanté. Et avoir une très grande affection. Et à l'abbé Evelyn qui va le guider, qui va l'éclairer, et ça va pas être facile, parce que il a, et donc c'est tout l'objet un petit peu de ce livre, de ce parcours, et c'est, comme je vous disais, c'est passionnant de voir cela, et donc à travers cette grâce, mais qui a été préparée, vous voyez, c'est, s'il n'y avait pas eu son voyage au Maroc, s'il n'y avait pas eu Marie de Bondy, voilà. Et donc, vous voyez, c'est important, Dieu se sert d'intermédiaire, catholique ou non. Donc, et donc ça sert d'intermédiaire pour que vous, et ça je crois que ça peut être bien aussi dans votre vie aussi, vous pouvez faire ça aujourd'hui on peut se dire, bah, tiens, si je suis là ici, vous êtes à Paris Monial, vous êtes à retraite, si je suis là, si vous écoutez ces conférences, c'est grâce à qui? Il y a peut-être des personnes, voilà, des personnes, une grand-mère, mère, père, marraine, parrain, marraine, une amie, peut-être quelqu'un de notre religion, vous voyez, un prêtre, pasteur, une religieuse. Et donc c'est ça aussi qui est très très beau dans la vie de Charles de Foucault, et qui nous interpelle pour nous aujourd'hui. Hein, voilà, vous voyez, hein, pareil comme dans l'Évangile, c'est pas pour un cours d'histoire qu'on fait, c'est un cours d'histoire pour nous aujourd'hui. C'est un saint qui nous aide pour aujourd'hui et demain. Et donc, cette rencontre avec l'abbé Evelyn, eh bien, donc, dans cette quatrième partie de la vie, cinquième partie de la vie, ça va être un temps de recherche. Quelle va être sa vocation? Et donc, comme il est un peu absolu, Charles, ça va pas être facile à, il veut être tout de suite se donner à Dieu, hein. Mais, donc, il va dire, bah, attends, voilà, discerner, il va l'envoyer faire les exercices de Saint-Ignace à Manresa, à Clamart, alors là, je reprends la lettre, voilà. Cette correspondance entre l'abbé Evelyn et Marie de Bondy, qui étonnamment, en fait, je vous lis. En 89, donc c'était sa confirmation, il était converti il y a un an après. Hein. Votre cousin est un peu pressant pour ses essais de vie monastique. Je l'envoie à Solesmes pour voir la vie bénédictine. Je lui dis de rester simplement quelques jours. Il verra ensuite la trappe où son attrait le pousse, où je ne le pousserai pas moi-même. En fait, c'est ça qui va être magnifique dans l'abbé Evelyn. Il veut pas le pousser à la trappe, mais en fait, finalement, à chaque fois, il va dire oui. À chaque fois qu'il va avoir des intuitions, l'abbé va dire non. Il va penser qu'il va être appelé au mariage, parce que vu avec sa vie avant, mais non. Et puis, il va essayer de mesurer. Les nouveaux convertis, il faut faire attention, parce que tout feu, tout flamme, et donc il va être un peu ce frein-là, et pour un peu attendre, un peu mesurer. Et puis après, l'abbé Evelyn va confirmer tout ça. Avoir beaucoup d'humilité. Vraiment, je suis moi je vais après Charles, je vais contempler l'abbé Evelyn, parce qu'en fait Charles ne serait pas Charles sans l'abbé Evelyn. Vous allez voir avec les mots de la fin, les feuilles que je vous ai transmises. Alors après, il va rentrer à la trappe. Donc là, c'est pas une photo de la trappe. J'ai pas mis de photo de trappe, mais voilà, là c'est quand il est à Nazareth. Hein. Même pas à Nazareth, quand il est déjà en Algérie, mais donc en fait, donc il va discerner et il va rentrer à la trappe où il va rester 7 ans. Alors, je veux remettre le lien encore avec Marie de Bondy parce que ça me semble vraiment très important. Accepter humblement d'avoir fait du bien à votre cousin, c'est une humiliante pensée. Mais vous savez que Dieu aime à faire quelque chose de rien. Aime à faire quelque chose de rien. Donc, voyez, on voit son âme. Marie de Bondy, mais je suis rien. Et donc là, il est rentré. Mais l'abbé Luvin dit, mais non, ben voilà. Dieu est passé par vous. Voilà, on peut dire, mais je suis rien, je suis pauvre. Ben oui, le Seigneur aime à passer par des hommes de rien. Et lui, l'abbé Yvelin va dire pareil, lui, moi je suis rien, je suis pauvre, mais bah, si, comme je vous dis ça, parce que c'est beau, hein, il va dire, je suis un ami, je suis très timide et mal à mon aise avec les gens. Je suis tout à fait vide et sec en moi et pour moi-même. Les lumières ne me viennent que pour les autres et à mesure qu'ils en demandent. Je ne sais rien d'avance, je ne puis rien me rappeler après. Bon, voilà, c'est vraiment ce guide spirituel. Et donc, voilà, je continue. C'est bien d'avoir l'abbé Yvelin, de voir le tempérament de Charles. Oui, c'est un bon cœur, bien aimant, bien dévoué, votre cher cousin. Je sens bien qu'il vous manque. Je sais qu'il prie pour les vôtres et qu'il conçoit le bonheur comme vous le concevez vous-même et qu'il demande avec vous ce qu'il vous demandait. Le bon Dieu a permis que vous lui ayez fait beaucoup de bien. Il permettra qu'à son tour, il vous en fasse beaucoup, dans tous ceux qui vous sont le plus chers. Alors voilà, ensuite, donc, on est en 1893, et Charles de Foucault va dire à l'abbé Yvelin, il a fait ses vœux temporaires, plus de 3 à 4 ans, il doit bientôt faire ses vœux solennels, et il s'en dit, la vie à la trappe, c'est, voilà, comme disait hier soir, ceux qui étaient là hier soir, le père Benoît, c'est pas assez pauvre, je veux imiter pauvre, Jésus pauvre. Il a pris la dernière place. On va l'envoyer, les moines vont l'envoyer voir quelqu'un, très pauvre, qui va mourir, il vit plus pauvrement que nous moines. Et dit, je suis appelé à imiter à Nazareth, je veux vraiment vivre dans une imitation à Jésus plus grande. Et dit, je veux créer un ordre religieux. Il écrit ça dans une lettre, donc plusieurs lettres. Donc ça fait, et voilà la réponse de l'abbé Yvelin, et qui va dire aussi, qui va écrire ça avec Marie de Bondy, ils partagent tout, en fait, tous les trois ensemble, en fait. Ils se portent tous les trois ensemble. Je reçois de votre cousin une lettre qui m'effraie beaucoup. Évidemment, la trappe ne répond pas à ce qu'il a conçu. Il reculera devant le sacerdoce, parce que le père abbé lui dit, tu vas te préparer à être prêtre. Donc il va faire des études. Ces années vont être fondamentales aussi à la trappe, parce que c'est là qu'il va faire la théologie, le goût de la théologie. Et il n'avait pas envie d'être prêtre, mais par obéissance. Et donc c'est là aussi qu'il va prendre l'obéissance. Strictement. Enfin, déjà, il avait pris, il se remet à l'obéissance avec son père spirituel, mais là, dans la règle de Saint-Benoît, et donc Saint-Bernard, puisque Trappiste, la règle de Saint-Benoît, et là, l'obéissance. Comme ici, Marguerite-Marie, Saint-Claude, la Colombière, l'obéissance. Tous les, obéir, enfin, non pas. Et donc, il va renoncer, voilà, au sacerdoce, parce qu'il pense qu'il va pas avoir la vocation d'être prêtre. Il conçoit la vie autrement. Il voudrait fonder quelque chose. Et écoutez bien, il voudrait fonder quelque chose et il n'a guère les qualités d'un fondateur. La guerre, à la manière d'une vrille, il trace et enfonce, il n'a pas assez de compréhensivité, voilà, pour ne pas s'étonner et pour faire la part des caractères et des faiblesses. Voilà. En fait, il dit, il voit en lui, il n'a pas le discernement pour être maître de novice, en fait. Voilà. C'est un fonceur. Mes appréhensions sont très vives d'après cette lettre. Je vais lui écrire. Le pauvre cher enfant souffre beaucoup. Le ton de sa lettre est ferme et décidé. Donc, cette lettre-là est là. Elle est magnifique. Enfin, elle est très longue où il explique tout ça et on voit son combat. Mais après, donc, l'abbé vient dire non, attends, père abbé, attends. Et il va attendre 1 an, 2 ans. Et après, l'abbé Yvelin va changer, il va dire « Oui, d'accord, ok, va à Nazareth chez les Clarisses. » Voyez, va à Nazareth chez les Clarisses, et puis, voilà. Et après, à Nazareth chez les Clarisses, qu'est-ce qui se passe? Il va rester 3 ans, et dit là, encore, c'est pas assez pauvre, et je suis appelé à créer, voilà, cet ordre, demander, alors ça, voilà. Et là, il va avoir cette intuition d'être centré sur le Sacré-Cœur de Jésus. Je voudrais être ermite du Sacré-Cœur de Jésus. Et être, en fait, missionnaire dans des lieux où on ne connaît pas Jésus. Cet amour des pauvres et surtout cet amour d'être mission là où il n'y a pas Jésus. Et il veut être, c'est ce qu'ils disent, témoigner de cette bonté auprès des plus pauvres. Hein, et donc, il va être auprès des plus pauvres et qu'il veut amener les non-chrétiens, les musulmans. Vous voyez, donc, il a le désir, vous voyez. Il veut amener les musulmans et les Touaregs à la bonté de Dieu, en étant bon, en étant doux et humble de cœur, hein, et en portant sur lui le cœur de Jésus, l'amour et la croix. Le cœur de l'amour, la croix et aussi la pauvreté et les sacrifices, il va dire ça quand même. Donc il va être quand même assez très très ascète, hein, comme on disait, la vie, et c'est ça qui va peut-être faire peur. C'est pour ça qu'il va vouloir des compagnons, mais c'est tellement radical qu'il va pas avoir de compagnons, et ça va être un peu sa souffrance, mais voilà, mais il va quand même tracer un sillon qui, après sa mort, eh bien, voilà, on est là aujourd'hui, des multiples congrégations se sont inspirées de son intuition. Et donc ce déploiement de l'adoration. Donc là, je vais faire qu'évoquer, parce qu'on va aborder ces thèmes-là cet après-midi et demain, hein, ce thème de la charité, l'amour, l'adoration, le Sacré-Cœur. Voilà, qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Voilà, c'est un adorateur. Et vous voyez son visage maintenant, qui est beau, hein, qui est tracé par les épreuves. Vous voyez, il va connaître beaucoup d'épreuves. Hein, il va libérer les esclaves. Il va se faire cause à cette population souffrante. Hein, et il va s'occuper des pauvres, voir dans les pauvres le Christ. Il va être témoin de lui-même du Christ, de la bonté du Christ. Et voilà cette présence de Jésus, de Nazareth, cette vie cachée. Pauvre à Nazareth, cette vie cachée. Donc ça, c'est, vous voyez, je sais pas si vous avez, cinquième étape de sa vie, donc le discernement, sixième étape, la trappe, septième étape, Nazareth, et Nazareth où il a vécu, et voilà, après la huitième étape, il va être donc en Algérie, dans Taman Rasset, hein, et puis à plusieurs endroits, enfin, il va fonder des prieurés, pas des prieurés, des lieux de prière, hein, même des petits fortins, très simples, très pauvres, pour être une présence du Seigneur. Et là, il va être frère ermite du Sacré-Cœur, voilà, cette frère ermite du Sacré-Cœur, cette huitième étape de sa vie. Ça va? Alors, je voudrais terminer par la fin de sa vie et le lien avec comment l'abbé Huvelin l'a accompagné jusqu'au bout. Donc, il est mort en 1910, l'abbé Huvelin. Il a su sa mort, hein, en 1910, et l'abbé Huvelin et Charles de Foucault est mort un 1er décembre 1916. Hein. Alors, je vous ai fait les photocopies. Enfin, vous les prendrez, à la fin. Mais, voilà. Donc, 414 et 415 dans ce gros livre-là. Le 15 août, il apprend la mort de l'abbé Huvelin. Charles écrit aussitôt à sa cousine Marie de Bondy. Jésus ne défend pas les larmes, loin de là. Il m'en donne l'exemple. Elles vont en gratitude jusqu'au bon Dieu qui nous a donné et lui disent que nous sentons le prix de la grâce qu'il nous a faite. Donc il a pleuré cette mort de son père. D'après vos dernières lettres, je m'attendais au départ de notre père. Il y avait toujours une lueur d'espoir. C'est un brisement pour moi comme pour vous. Tous les vendredis, il célébrait la messe pour son père spirituel. Hein. Tous les vendredis. Et puis voilà, le lendemain, donc à sa sœur, il est resté jusqu'à la fin mon guide, mon directeur, mon père bien-aimé. 24 ans depuis octobre 1886, donc il était son père spirituel pendant 24 ans. Pour ceux qu'il aimait et qu'il avait pour père spirituel, c'est un vide qui ne sera sans doute jamais comblé. Voilà. Les derniers mots qu'il m'a dit, confiance et espérance. Confiance et espérance. Je vous l'ai dit à mon tour, faisons de notre mieux sans regarder notre faiblesse, sûr de l'aide de Dieu. De même que l'évangile est simple, la vie chrétienne est simple. Connaître la volonté de Dieu et faire de tout son cœur. en attendant qu'on connaisse la volonté divine, et après qu'on l'a connue, le devoir est simple aussi, aimer. Aimer Dieu et le prochain. Aimer le prochain pour arriver par là à l'amour de Dieu. Ces deux amours ne se font pas l'un sans l'autre. Croître dans l'un, c'est croître dans l'autre. Comment acquérir l'amour de Dieu ? En pratiquant la charité envers les hommes. Le courrier vient de m'apporter les détails sur les derniers moments de la mort de l'abbé Huvelin, de celui entre les mains de qui je me suis converti il y a 24 ans et qui est resté depuis alors mon père spirituel. Il a gardé jusqu'à la fin toute sa connaissance, mais ne pouvait à peine parler. Ses deux dernières paroles ont été « On vaut par ce qu'on aime ». Notez, « On vaut par ce qu'on aime ». Voilà, ça c'est la dernière parole de l'abbé Huvelin, et c'est ce qu'a vécu Charles. C'est vrai, on vaut par ce qu'on aime. Ensuite, voilà, après on va lire les dernières lettres de Charles de Foucault, à Marie de Bondy toujours, et c'est le beau un peu de la fin, face, voyez, la situation pour aujourd'hui. On peut être dans l'inquiétude, voilà, tout ce qui se passe, Charles, voilà, tout ce qui se passe en Ukraine, la guerre, voilà, l'OTAN, l'Ukraine, la Russie, et voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes, vos vies personnelles. Voilà ce que Charles de Foucault écrit. Le 29 janvier 1916, 11 mois avant sa mort, hein, 11 mois avant, 10 mois même d'ailleurs, parce qu'il est... Il y a beaucoup de choses qui clochent partout. Mais il faut donner l'exemple de la confiance et de l'espérance. Ces deux mots sont les derniers qu'il a entendus de la bouche de l'abbé Huvelin en 1909. Confiance et espérance. Voilà. Ensuite, voilà, 1er décembre 1916. C'est quand même assez rare. Parce que donc il a été tué comme assassiné brutalement à 58 ans. Il ne s'attendait pas à mourir. Hein, voilà, il ne s'attendait pas à mourir. Hein. Il est mort comme un agneau qu'on tue à l'abattoir. Voilà, comme Jésus. J'aime bien faire. C'était le texte qu'on a lu jeudi. Dans la douceur, il était mort bêtement. Voilà. Et donc voilà ce qu'il écrit à Marie de Bondy. Il reprend cette phrase de l'abbé Huvelin. Quand on veut souffrir et aimer, on peut beaucoup. On peut le plus qu'on puisse en ce monde. On sent qu'on souffre, on ne sent pas toujours qu'on aime. C'est une grande souffrance de plus. Mais on sait qu'on voudrait aimer. Et vouloir aimer, c'est aimer. Voilà, la connue, voyez ça. Des fois, on veut aimer, on n'arrive pas à aimer. Voilà, c'est, voilà. Mais voilà tous. Mais donc, il faut avoir ce désir d'aimer. Et voyez, il a parlé tellement de l'amour, il a vécu de l'amour. Et à la fin de sa vie, voyez, il est passé ce qu'on appelle, voilà, cette sécheresse. Il sent pas cet amour, mais en fait, il veut aimer. Donc, vouloir aimer, c'est déjà aimer. On trouve qu'on n'aime pas assez. Ça, c'est une phrase encore de l'abbé Huvelin qui dit, je n'ai pas assez aimé. Comme saint Vincent de Paul aussi. Voilà. Et le curé d'Ars aussi, peut-être, voilà. Voilà, on trouve qu'on n'aime pas assez, mais le bon Dieu, qui sait de quel bout il nous a pétris, et qui nous aime bien plus qu'une mère, ne peut aimer son enfant. Vous voyez, on a vu hier cette prière de Charles de Foucault, comme un père, Dieu nous aime comme un père, il n'a fourni confiance car tu es mon père, et là, voilà, il nous a pétris, il nous aime bien plus qu'une mère, hein, ça prend Isaïe, hein. Une mère peut-elle oublier son enfant ? Moi, je ne vous oublierai pas. Donc, ça, c'est. Donc, il sait de quel bout il nous a pétris et qui nous aime bien, plus qu'une mère ne peut aimer son enfant, nous a dit, lui qui ne ment pas, qui ne repousserait pas celui qui vient à lui. Voilà. Voilà les dernières paroles de Charles de Foucault. Tout cet itinéraire, un peu, enfin, c'est très rapide, va approfondir tout cela. Et puis donc sa mort, voyez, c'était très difficile parce que pas de frère, pas de conversion, pas de, on me dit, mais voilà, Il faut que le grain de blé meure, tombe en terre pour qu'il porte du fruit. C'est Jean 12, je crois que c'est bien terminé par cette parole de Jésus. Lui qui a voulu imiter Jésus jusqu'au bout, il a imité Jésus, les mots de l'évangile, on va vous en parler. Eh bien, dans sa mort, il faut qu'il ait sa portée du fruit et les Touaregs, hein, quand il est mort, eh bien, des Touaregs ont pleuré. C'était notre frère, bon, c'était Rabo, c'était notre frère, et voilà, et sa portée, et voilà. Et les fruits sont là, hein, sont là. Donc là aussi, ça peut nous rassurer, vous frères et sœurs. Nous aussi, comme prêtres, pasteurs, religieux, religieuses, on fait plein de choses, on éduque nos enfants, on voit pas les fruits. On veut, voilà. Et c'est d'accepter cette pauvreté, de pas voir les fruits. Les temps de Dieu sont les temps, sont pas les nôtres. Sont pas les nôtres. Et donc, c'est ça aussi, je crois que c'est une grande espérance, vous voyez, hein, confiance et espérance, aujourd'hui. Voilà, on sait pas de quoi demain sera fait, hein, mais, comme un petit enfant, celui qui, j'aime pas ma phrase, celui qui ne se fait pas petit comme un enfant n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Il y a deux négativités pour dire que c'est être petit comme un enfant, voilà, c'est pour entrer dans le... Et c'est vivre l'instant présent, c'est aimer, c'est l'instant présent, la charité, l'aimer, faire confiance. Avoir des projets quand même aussi, comme, vous voyez, il avait des projets, des désirs, hein, voilà, comme on a des sœurs de Charles de Thérèse de Lisieux, hein, il y a beaucoup de liens aussi entre... C'est la même époque, hein, Thérèse de Lisieux, ils ne sont pas connus quand... Enfin, les morts 80... Enfin, si, il a peut-être lu des... Il était marqué par le Carmel, hein, très mal, il était formé par le Carmel, Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, hein. Mais Thérèse de Lisieux, voilà, mais je crois qu'il vivait voilà, comme Thérèse de Lisieux avait un amour du cœur de Jésus, eh bien, sûrement, peut-être inconsciemment, Charles, grâce aussi à une prière cachée des Carmélites et la petite Thérèse de Lisieux. Hein, cet esprit d'enfance, confiance, espérance, nous ne voyons pas les fruits que nous faisons, Dieu seul, tout ça, nous remettons tout ça dans les mains de Dieu. Ce qui compte, c'est d'aimer comme Jésus, et au moins, si on n'a pas... On ne sent pas d'avoir ce désir d'aimer. Et là, je crois que c'est même saint Augustin. Si on n'a pas le désir d'aimer, demandons le désir du désir d'aimer.
Saint Charles de Foucault, itinéraire d'une conversion. Vous venez de suivre une conférence du père Gonaël Kefelec, enregistrée au sanctuaire de Paray-le-Monial au mois de mai 2022.